On est parti. Donc, ce matin, on va faire deux choses. Dans la première heure, cours 5.05, théologie pratique, accompagnement pastoral. On va donc voir la question des hommes et des femmes, masculin et du féminin, dans le plan de Dieu. Et puis tout à l'heure, on va parler de l'entretien et de savoir conclure. Ce matin, donc, hommes et femmes. C'est un sujet très important. Comment dire, dans l'accompagnement pastoral, je crois que la problématique du masculin et du féminin, c'est, je sais pas, peut-être 70% de la source des problèmes. Que ce soit relationnel, sexuel, identitaire, hein, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. À chaque fois, je vous dis que c'est essentiel parce qu'on a 12 heures, donc on travaille sur les bases. Mais voilà, entendez-le. Et donc, la première grande difficulté de ce cours, c'est que, comme vous le voyez apparaître sur la diapo, c'est que je suis un homme. Et donc, pour moi, parler des femmes, c'est quelque chose je peux parler de ce que je connais des femmes ou de ma femme, mais je ne peux pas parler en général des femmes. Et heureusement que on va voir dans la Bible ce qu'il est dit de la femme, et notamment dans ce que j'ai compris de Genèse 1, 2, 3. C'est un sujet très sensible parce qu'on est continuellement en relation les uns avec les autres. Et que par exemple, les gens qui souffrent de la solitude peuvent bien être des gens qui d'un côté, ne savent pas, en tant qu'hommes, aller simplement à la rencontre d'une femme, hein, même en amitié, et de ce fait, peut-être qu'avec les autres hommes, ils sont aussi en difficulté, parce qu'ils se comparent, et de ce fait, ça engendre beaucoup de solitude. Hein, donc c'est un sujet qu'on retrouve très souvent. Un autre problème, c'est que le sujet est très vaste, et donc il y a le danger de la généralisation. On va dire, par exemple, toutes les femmes sont bavardes, médisantes, tous les hommes sont violents, ne pensent qu'au sexe, etc. Bon, ça, c'est une généralisation. Et donc, on va, dans ce sujet, poser des pistes de réflexion qui nous permettent de voir dans le texte biblique ce qu'on peut justement poser, mais on va aussi écouter les silences, hein, savoir ce qui n'est pas dit, et on essaiera d'accueillir tout ce que ça peut évoquer. Je voudrais mettre l'accent sur la femme plus que sur l'homme, parce que, mettons que depuis peu de temps dans notre société, on met plus l'accent sur la femme. Mais en théologie, on a étudié qu'en 2000 ans d'histoire, hein, l'accent sur l'homme a été écrasant, et notamment écrasant pour les femmes. Et donc je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu, notamment à la place de la femme dans l'écriture. Et en parlant peut-être aujourd'hui, et d'un point de vue pastoral, plus des différences et des complémentarités que du champ d'action de chacun. C'est difficile de dire, au niveau du champ d'action, de faire une liste, même incomplète, parce que c'est très long, ça dépend des cultures, des personnes, des tempéraments, des familles, etc. Mais je voudrais enfin quand même faire la différence avec 1 Corinthiens 7, 10 et 1 Corinthiens 7, 12, la différence entre les principes et les applications, les champs d'application. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette réalité. En 1 Corinthiens 7, 10, à l'égard de ceux qui sont mariés, l'apôtre Paul va dire je vous dis non pas moi, mais le Seigneur. Et il dit au verset 12, à l'égard des autres, je vous dis non pas le Seigneur, mais moi. Et j'entends dans cette affirmation que il y a des principes qui sont généraux qui sont très explicites, hein, 1 Corinthiens 7, verset 10, hein, que la femme ne soit pas séparée du mari. Autrement dit, le propos de Dieu n'est pas que le divorce soit une solution. Et au verset 12, il y a un champ d'application, il y a un point pratique d'application dans lequel, un cas particulier dans lequel Paul va dire, voilà, ben, s'il y a une femme qui est avec un mari incrédule, et si le mari incrédule veut partir, alors qu'il parte. Hein, donc ça, c'est un cas particulier. Et je crois que on va essayer d'entendre les principes. Comme principe, ce que je souhaite que vous reteniez à la fin de cette heure, c'est certainement ce qui est dit dans la Genèse. Genèse 1, l'homme et la femme sont créés ensemble pour un même rôle. Et nous lisons, nous entendons cette déclaration, Genèse 1, 26-27, faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Hein, il les créa, mâle et femelle, fructifiez, multipliez, assujettissez. Alors je l'ai mis un peu en vrac. Hein, donc faisons l'homme à notre image. Dieu les créa, mâle et femelle. Et donc on a une création qui est présentée au chapitre 1er dans un temps qui n'est pas défini, mais ils sont créés en même temps. Et il y a donc ce mandat créationnel. Fructifiez, multipliez, assujettissez, remplissez la terre et dominez. Et je vous rappelle peut-être que la Genèse est structurée par ces 10 expressions, ce sont ici les générations d'eux, hein, qu'on trouve, qu'on commence à trouver au chapitre 2 et au verset 4, et qui finit, je crois, au chapitre 37. Et au verset 2, à l'égard de Jacob. Et il me semble qu'il y a le corps de la Genèse qui est contenu qui est scandé par ces 10 déclarations, et qu'à partir du chapitre 46, on voit ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entrent dans le pays d'Égypte, comme pour montrer une conclusion du livre de la Genèse, et le chapitre 1er étant une introduction. De sorte que la création de l'homme est exposée dans l'introduction, et elle est aussi exposée dans la première séquence, ce sont ici les générations des cieux et de la terre, au chapitre 2. De sorte que je ne vois pas de répétition, mais je vois deux évocations qui sont différentes, au chapitre 1 et au chapitre 2. Je ne vois pas de problème dans la répétition. Hein, il y a quelque chose d'introductif au chapitre 1er, où l'homme et la femme sont placés dans cette terre avec son atmosphère, qui s'appelle les cieux, et on a un décor qui est planté, et ensuite, dans les 10 séquences, il y a le propos de Dieu qui est d'appeler l'homme et d'appeler Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, je retiens finalement ce qui est introductif, que l'homme et la femme sont créés ensemble pour un même rôle, mais je retiens dans la première déclaration de la Genèse, que l'homme et la femme sont créés séparément pour des rôles distincts. Et nous lisons Genèse 2, verset 16, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide ou un secours, ézer en hébreu, qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte ou du côté qu'il avait prise de l'homme, tselé en hébreu, le côté. Tselé est traduit par ailleurs par bord du coffre de l'Alliance, de l'Arche de l'Alliance, ou par chambre latérale du temple. Qu'est-ce que on peut entendre dans cette déclaration? C'est pas facile de savoir concrètement ce qu'il faut en retenir, mais on peut déjà entendre des affirmations assez précises. La première, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y a un homme qui est créé en premier, et cet homme est placé pour cultiver et garder le jardin. Voilà ce qui caractérise l'homme. Quand l'Éternel Dieu parle, il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce qui va caractériser donc la problématique par rapport à l'homme, c'est sa solitude. Et l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, va dire: je lui ferai une aide qui lui corresponde. Donc, je vais lui faire quelqu'un qui va lui correspondre, mais qui va faire qu'il ne soit pas seul. Et cette non-solitude fera qu'il y aura un secours. Alors là, je reste assez strictement dans ce qui est dit. Si je le reformule de manière un peu plus accessible, je dirais que l'homme, le masculin, le genre masculin, Zakar en hébreu, mâle, qui veut dire souvenir, hein, comme dans Zacharie, et Nekva, femelle, hein, qui veut dire perforation. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre là-dedans? On peut entendre que l'homme, finalement, Zakar, est-ce qu'il faut dire par là que l'homme est appelé à être, à donner un souvenir de ce que Dieu voudrait? C'est possible. Hein, on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'il faut appliquer ce mot. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le fait que la femme soit en face de l'homme pour être dans cette non-solitude, c'est-à-dire dans cette relation, alors ça, c'est un secours pour l'homme. Je dirais donc que l'homme est créé ici dans ce jardin pour quelque chose, pour agir, cultiver, garder, mais que la femme, elle est créée pour être secours pour l'homme, autrement dit, pour être en face à face, en vis-à-vis, ou en relation avec lui. Il me semble que les deux rôles distincts pourraient être marqués par relation-action, hein, ce que j'ai mis en haut à gauche de la diapo. C'est-à-dire d'une manière qui, quand même, globalement nous échappe, mais si on écoute un peu ce que vivent les gens autour de nous, on peut-être le constater. Il me semble que l'homme est en général quelqu'un qui est sensible à l'action, et une femme est en général quelqu'un qui est sensible à la relation. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel Dieu prend une côte ou un côté d'Adam? Moi, ce que je remarque, c'est que notre corps n'est pas symétrique. Et je pense que de ce fait, il est clair que si on ne retient pas le mot côte, mais plutôt côté, alors on comprend qu'on puisse ne pas être identique, hein, quelle que soit finalement la forme que nous retenons, symbolique, littérale, allégorique. J'entends donc dans ce chapitre 2 que l'homme et la femme sont créés séparément pour des rôles distincts. Et donc, on va comprendre que si moi, en tant qu'homme, je suis sensible à cultiver le jardin, et ma femme, en tant que femme, est sensible à être en face de moi pour qu'on soit en relation, alors si moi, quand j'arrive, je lui parle de la culture de mon jardin, et si elle attend que je lui parle de ce dont elle est sensible, c'est-à-dire de moi, alors on aura beaucoup de mal à se parler. Parce que moi, je parlerai de ce que je fais, alors elle voudrait que je lui parle de ce que je suis. Hein? Et moi, je vais être occupé en tant qu'homme de toute ma force, de ce que je fais, et je vais toujours réfléchir à comment améliorer, comment faire ceci ou cela, mais elle, ce qui l'intéressera, c'est d'entendre ce que je suis, ce que je ressens, d'entendre tout ce que je vis dans mes états d'âme. De ce point de vue-là, je vous conseille bien la lecture de Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, de John Gray, hein, un livre qui n'est pas strictement chrétien. Là, je fais la chasse aux araignées. Et qui montre avec des exemples quelque chose qui est assez symptomatique à mon sens. Au chapitre 3, on voit que Adam et Ève sont, entre guillemets, sanctionnés séparément pour des fautes différentes. Alors on lit au verset 15 et 16, là c'est à l'égard du serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et à l'égard de la femme, en travail, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Et puis à l'homme, au verset 17, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de la vie, tous les jours de ta vie. J'entends dans ce discours sentencieux, dans ce discours qui constate, à mon sens, Dieu ne punit pas, c'est-à-dire Dieu ne fait pas mal quand on a mal fait, hein, mais Dieu accompagne l'homme et la femme dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, en travail, tu enfanteras des enfants, ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? C'est que le problème ici de la femme, on pourrait dire les conséquences de cette faute qu'elle a faite et qui a eu lieu, ce sont des conséquences qui touchent à la relation, qui touchent aux enfants et qui touchent au mari. Il me semble que, je crois qu'enfanter c'est yalad, il me semble que dans cette expression, on peut entendre tout toute la relation de la femme avec ses enfants, non pas seulement le fait d'accoucher, mais le fait d'être avec ses enfants. Et donc, tu enfanteras en travail dans la douleur, hein, ton rapport aux enfants sera douloureux. Et je pense que, de toute évidence, le rapport aux enfants, moi j'ai 4 enfants, hein, 3 qui sont grands, et le rapport aux enfants est plus douloureux chez la femme que chez l'homme. Et pourquoi? Il me semble que la femme a un sens relationnel que l'homme n'a pas, hein, d'entendre, de discerner, de préoccupation. Et par contre, à l'homme, il est dit, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. On a l'impression que pour l'homme, il n'est question que de manger ou de travailler. Hein? Et où sont les relations là? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Il me semble que hommes et femmes sont conçus par Dieu pour un avenir commun, c'est clair. Et donc, nos différences ne sont pas suffisantes pour que nous ne nous comprenions pas, parce que notre objectif commun est quelque chose qui doit finalement nous est suffisant pour nous rassembler. Mais d'un autre côté, la femme qui est prise d'un côté de l'homme, alors elle est un manque pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme a quelque chose qui lui a été enlevé. Elle est en opposition à l'homme. Je suis certain que ça fait 27 ans que je suis marié, mais avec ma femme, je suis certain qu'il y a quantité de fois où nous ne nous comprenons pas. Et donc, dans l'accompagnement pastoral, il s'agit vraiment d'aider la personne à comprendre son alter ego. Hier soir, j'étais avec un monsieur qui me. Qui a été trompé par sa femme, hein, monsieur chrétien, une femme et une dame chrétienne, qui a été trompé par sa femme, et voilà, ils ont passé la crise, et ils essayent de reconstruire, et madame lui dit, non, madame, en ce moment, ils habitent dans des endroits différents, non pour des raisons de séparation, mais pour des raisons particulières. Et donc, elle vient là où monsieur habite, et il se trouve qu'elle fait la vaisselle. Bon, et monsieur lui dit merci beaucoup, et madame lui dit, j'espère que tu sauras me le rendre quand ça sera le moment. Et monsieur qui tout de suite lui dit, mais tu te rends pas compte que je te le rends souvent, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et j'ai dit à monsieur, simplement, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de madame Quand ma dame vous dit, j'espère que tu sauras me le rendre au bon moment. On ne sait pas quelle est la motivation de la personne. Et encore entre hommes, je pense qu'on arriverait en fait à savoir assez facilement pourquoi est-ce qu'on dit ça. Mais je pense qu'entre hommes et femmes, la question est beaucoup plus difficile et il s'agit vraiment de prendre des précautions chaque fois que nous avons à nous parler entre hommes et femmes. Alors là, on est dans des généralisations, mais je crois que c'est ça toute la question de l'accompagnement pastoral, notamment, soit dans le couple, soit dans l'éducation des enfants, hein, ou quand papa a affaire à ses filles ou maman au garçon, ou au contraire, quand papa a affaire au garçon et maman à ses filles, parce que finalement, papa et maman sont tellement sensibles à ce que sont pour papa les garçons, pour maman les filles, qu'il faut savoir doser et savoir l'expliquer entre les parents. Transformer cette opposition en complémentarité, c'est possible. Je souligne donc le relationnel difficile pour la femme, enfantée dans la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire être dominée par celui vers qui elle se tourne? Hein? Ton désir se tournera vers ton mari et lui dominera sur toi. On peut se poser la question, est-ce que le fait que le désir de la femme se tourne vers le mari, est-ce que cela est consécutif à la chute? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est organique? Quelque chose qui marque la femme, qui caractérise la femme? Ton désir sera tourné vers ton mari. C'est-à-dire qu'en fait, toi, femme, tu es quelqu'un qui est dans un sens relationnel très marqué. Et si c'est ça, alors on comprend que l'homme puisse malheureusement en profiter. Hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai suivi une femme qui s'est prostituée et, pendant une année scolaire et elle m'a dit qu'elle s'était prostituée par amour. Donc on voit là à quel point quand une femme aime, elle est capable d'aller, je dirais, faire n'importe quoi, hein, pour celui qu'elle aime. Un relationnel difficile pour la femme, mais... J'ai mis donc ce verset d'un Timothée 2,15. La femme sera sauvée en enfantant. Et je vais peut-être juste vous proposer une compréhension de ce passage, qui est un peu compliqué. Hein, où, dans le grec, on entend qu'il est question d'abord de Ève. Hein, et il est dit, elle au singulier sera sauvée en enfantant. Et après, il est dit, au pluriel, si elle persévère dans la foi et dans un ensemble de choses. Il me semble que là, dans ce passage d'un Timothée 2,15, qu'il y a le rappel historique de ce que Ève a été et qui montre que en enfantant, Ève va donner naissance à la lignée qui amènera le Christ, le Sauveur. Elle sera sauvée en enfantant, ce que l'Éternel lui avait dit à l'égard du serpent. Hein. Il avait dit au serpent donc que la semence de la femme lui briserait la tête, mais que lui, il briserait à la semence de la femme le talon. Et donc, je vois dans Timothée 2,15 que quand le verbe est au singulier, alors la personne sera sauvée en enfantant, il s'agit de Ève, mais par contre, si elle persévère, là c'est au pluriel, et il s'agit de toutes les femmes qui viennent après, et qui, si elles persévèrent dans la foi, c'est-à-dire si elles reprennent par la foi cette réalité que cette semence de la femme détruira le serpent. Alors, on continue avec cette réflexion sur ce qu'il faut retenir. D'un côté, hommes et femmes sont conçus par Dieu pour un avenir commun. De l'autre côté, il y a ces différences qui sont créées au chapitre 2, avec un relationnel difficile pour la femme et un travail difficile pour l'homme, au chapitre 3. Hein, à cause de l'homme, la terre est maudite, tu en mangeras péniblement tous les jours de la vie. Et on a finalement, avec Adam et Ève, un couple qui démarre mal. Et Ève, par exemple, qui va dire, chapitre 4, verset 1, J'ai acquis un homme avec l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'Ève va dire? Qu'est-ce qu'Ève veut affirmer avec ça? J'ai acquis un homme avec l'Éternel. Il me semble qu'on peut voir deux possibilités. La première, c'est que Adam n'est tellement pas là, hein, il est tellement au jardin, il est tellement que en fait, pour elle avoir un enfant, Caïn, qui veut dire acquisition, eh bien finalement, Caïn va remplacer Adam. J'ai acquis un homme. Et donc on voit la solitude de Ève dans son couple. On voit comment Ève a ce besoin de relation, mais que finalement Caïn n'a pas réalisé à quel point il doit être avec Ève. D'un autre côté, elle dit j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Elle ne dit pas j'ai acquis un homme avec Adam. Et donc il y a quelque chose qui est tordu là-dedans. Hein, il y a non seulement peut-être une absence ou un silence d'Adam, mais il y a aussi quelque part Ève qui est finalement qui va dans sa relation avec Dieu aboutir sur quelque chose qui va être au détriment de ce que son couple pourrait être. Qu'est-ce qu'il faut voir dans le Nouveau Testament? Alors on lit en 1 Corinthiens 11. Au verset 8, car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme. Hein, on a donc cette reprise, hein, confirmation par l'apôtre Paul. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. On a donc ici une différence de fonction. Hein, la femme a été créée à cause de l'homme. Et donc, à cause de l'homme, parce que l'homme n'était pas suffisant. Un regard machiste de Genèse 2 sur la femme pourrait dire à la femme, tu n'es qu'une aide. Et un regard féministe sur l'homme de Genèse 2 pourrait être de dire, tu es incomplet, tu as besoin d'être aidé. Et donc, le regard général, c'est vivons dans cette complémentarité, mais qui est une complémentarité difficile. Alors, la suite du passage, toutefois, verset 11, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur, car comme la femme procède de l'homme aussi, ainsi aussi l'homme est par la femme, parce que l'homme, il naît de femme, mais toute chose procède de Dieu. Je souligne ici que si l'homme et la femme sont différents en fonction, alors ils ont la même valeur. Toute chose procède de Dieu. Mais avec 1 Timothée 2, 14 et 15, dont nous avons déjà un peu parlé, alors il y a une différence de parcours. Adam a été formé le premier, puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, Ève, ayant été trompée. Et c'est là où je vous parlais d'un singulier. Hein, ici, elle sera sauvée en enfantant, c'est un singulier. Si elle persévère, c'est un pluriel. Et cette différence de genre, singulier pluriel, n'est pas repris dans la plupart des Bibles. Hein, donc voilà, vous pouvez le noter. Et donc voilà une différence de parcours qui est à noter. Hein, je ne sais pas forcément ce qu'il faut en faire, il faut entendre ça. Hein, une différence de parcours. Et puis aussi une différence de constitution. Dans 1 Pierre 3, verset 7, la femme est décrite comme étant un vase, je crois qu'en grec c'est skeo, plus faible, asthénos, faible. Hein, donc il y a est-ce que c'est au niveau corporellement, hein, que la femme est plus faible, elle est moins forte, elle est plus petite, elle est moins musclée, etc. Plus faible, c'est-à-dire féminin. Et il est dit dans ce passage, Marie, demeurez, hein, pas soyez seulement, mais demeurez. Hein, comme vous êtes, vous, Marie, capable d'être des bourrins, capable d'être à côté de vos femmes, mais sans être avec elles, en fait. Hein. Donc, demeurez avec votre femme, en connaissance de cause, hein, en vous souvenant de ce que vous savez, c'est-à-dire que la femme est un vase plus faible, c'est-à-dire féminin. Alors, il y a donc des différences de constitution. Et On peut noter en Éphésiens 5, 26 des différences d'appel. Hein, pourquoi est-il dit, Marie, aimez vos propres femmes? Et femmes, soyez soumises à vos maris. Alors si on regarde ces passages en vertu de ce qui touche à la relation et à l'action, alors je crois qu'on peut comprendre assez simplement ces réalités. Marie, aimez vos propres femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mari, il est tellement occupé de ce qu'il fait qu'il en oublie qu'il est avec. Le sens de l'action pour le mari, qu'il appelle à aimer, et la femme, qui est tellement en relation qu'elle pourrait en oublier le sens général de l'action. Alors, femme, sois soumise à ton mari, c'est-à-dire, finalement, comprends que tu n'es pas faite comme lui, et que lui, si au niveau de la sensibilité, ça peut être un bourrin, hein, et je remarque que c'est souvent le cas dans ma propre vie. Par contre, au niveau de ce qu'il doit faire et de là où il doit aller, alors là, fais-lui confiance. Parce qu'il a, il a un sens actionnel plus marqué que le tien. Et la soumission, c'est hupotasso, c'est le fait de se placer, tasso, dessous, hupo. Hein? Sous, maître, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas. La soumission, c'est pas que la femme dise continuellement à l'homme, je suis d'accord avec toi. Non. Au contraire, je pense qu'une bonne soumission, c'est que quand on n'est pas d'accord, on dit, ben voilà, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, bien entendre que, avec ces éclairages, qu'il y a une différence d'appel qui tient à la différence de fonction. Voilà le texte d'un Pierre 3, dont je vous parlais tout à l'heure, où on entend ces deux choses, ici, action, relation. Femme, soyez soumise à vos propres maris. Hein, c'est-à-dire, vivez quelque chose qui sera important non seulement pour vous, mais pour le mari. 1 Pierre 3, verset 1. Et 1 Pierre 3, verset 7. Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, savoir être en relation. Du point de vue pastoral, c'est extrêmement important tout ça. Je dirais que chaque fois que j'ai affaire à des couples, je dois apprendre à ces couples à d'abord à comprendre ce que c'est que l'action et la relation, à comprendre ce qu'ils sont et à comprendre comment est-ce qu'ils sont capables de générer des conflits, de créer des conflits au lieu de créer de la complémentarité. L'exemple typique, c'est par exemple maman travaille, mais bon, arrive à la maison avant papa, et il y a deux enfants à la maison. Et donc, mettons, papa arrive à la maison. Alors, quand papa est suffisamment sympa et qu'il n'est pas trop attentif à sa fatigue, parce que j'ai entendu des papas, par exemple, qui disent, moi, il faut pas que les enfants fassent de bruit parce que j'arrive, j'ai travaillé et je veux me reposer. Et donc maman est dans la cuisine avec les enfants en essayant de faire à manger. Et papa, je ne sais pas ce qu'il fabrique hein, dans sa tour. C'est vraiment une situation difficile. Mais quand papa prend sur lui et qu'il arrive et qu'il voit maman un petit peu débordée, et du coup que papa bah, passe un coup de balai, met la table, etc. Et puis fait deux, trois trucs et s'occupe des enfants. Et tout à coup maman n'est pas contente. Alors papa va lui dire... Mais enfin, j'arrête pas de t'aider, tu es pas contente. Et oui, mais le problème là, c'est quoi? C'est que papa n'est pas avec maman. Voilà. Et donc, je crois qu'on peut vraiment entendre dans ce texte d'un Pierre, hein, qui parle généralement de la souffrance, comment est-ce qu'il faut vivre ces relations dans le couple, mais aussi ses relations les uns avec les autres. Parlons maintenant de la sexualité. Alors la sexualité, il faudrait qu'on en parle en quelques heures, hein, bien sûr, mais on est là pour poser quelques bases. Alors voilà ces bases. Il me semble que la femme doit trouver la sexualité dans la femme doit trouver la sexualité, c'est-à-dire l'action dans la relation. Hein? La femme doit trouver l'action, la sexualité dans la relation, et l'homme doit trouver la relation dans la sexualité. C'est-à-dire que l'homme qui a une sexualité d'action, il est capable, en fait, de vivre sa sexualité uniquement sur son action. Et je pense que ça doit être très difficile pour une femme de comprendre comment c'est possible. Mais c'est possible, malheureusement. Hein? Et quand on entend dans les banlieues parler de viol collectif, et quand on... je crois qu'il faut comprendre que cette sexualité en action, elle a un côté très bestial, hein, mais de ce qui est animal et dont l'homme n'a pas du tout à rougir. On est en action, en fait, mais nous avons, nous, les hommes, à comment dire, intégrer ce sens de la relation et savoir vivre une relation sexuelle. Et le problème féminin est en général un problème de carence relationnelle. Le problème des frigidités est un problème de blessures relationnelles de la femme qui ont lieu à différents moments de la vie et qui va finalement être alimentée par une relation difficile. Je ne sais pas si je vous ai dit que, à mon sens, on se construisait. Alors je vais prendre l'exemple d'un homme. Un homme se construit en identification à son père et en capacité relationnelle dans sa relation à sa mère. Donc, moi, je vais construire ma virilité ou mon identité dans le regard que j'ai sur mon père. Si je critique mon père, si je n'aime pas mon père, si je fuis mon père, alors j'aurai des troubles personnels. Et je vais me construire dans ma relation aux femmes, dans ma relation à ma propre mère. Alors bien sûr, tant que je suis enfant, hein, hein, enfant, adolescent, et je vais... De ce fait, suivant la qualité de mon père ou de ma mère et suivant les réalités que je vais vivre, alors je vais aboutir à quelque chose qui sera possible entre un homme et une femme ou pas. Et donc, je parlais des frigidités, hein, ou des impuissances. Elles peuvent largement résulter, l'impuissance de cette incapacité de prendre. Un homme prend une femme. Donc, voilà ces deux côtés, action et relation, qui à mon sens, ressortent bien dans la sexualité. Sexualité, ça vient de séparer, qui veut dire couper. Et donc, l'homme et la femme sont coupés, et la sexualité est une manière de se retrouver. Intéressant d'entendre, Genèse 4.1, Adam connut sa femme, hein, connaître, c'est Yada. Hein, moi, de mon temps, on avait fait ça avec, Pierre Berthoud. Hein, on en avait fait tout un paquet, hein, Yada, connaître, sur les différents sens. Et donc, c'est intéressant d'entendre, en fait, se connaître. Hein, connaître veut dire pénétrer. Hein, donc, si on veut se connaître, il faut qu'on se pénètre moralement. Et donc, l'acte sexuel n'a de sens que quand il est analogue à l'acte moral. C'est pour ça que porneia, fornication ou débauche, c'est la vie sexuelle sans la vie morale qui est associée. Hein, la fornication, c'est la vie sexuelle qui est ponctuelle avec des gens qu'on ne connaît pas. Et la vraie sexualité, c'est de vivre sa sexualité avec quelqu'un avec lequel on s'est engagé et quelqu'un qu'on connaît. C'est une réalité qui n'est pas décrite, c'est un lieu de découverte, et non seulement c'est un lieu de découverte, mais nous ne connaissons qu'en partie, nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous dit 1 Corinthiens 13, mais aujourd'hui nous ne connaissons qu'en partie. Et donc, je crois qu'il ne faut pas chercher à aboutir sexuellement. Hein, Luther disait qu'il fallait avoir deux relations sexuelles par semaine. Pour moi, qui suis marié depuis 27 ans, je vous dis, ça n'a pas de sens. Hein, c'est quelque chose qui est... C'est sympathique d'entendre ça. Et avec ma femme, on en rigole souvent, en fait. Hein, parce qu'on va se dire, ah tiens, ben, là, on n'a pas obéi à Luther. Ou là, on lui a désobéi. Hein, donc, c'est intéressant. Mais ça, il n'y a pas finalement, de recommandations particulières, de techniques particulières, mais il faut vraiment être dans cette relation, dans cette découverte et dans cette connaissance. Plus de pudeur. Hein, l'absence de pudeur est dans la relation du mariage, mais par contre, la pulsion sexuelle reste une tension. 1 Corinthiens 7, verset 4 nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc, c'est intéressant de voir comme la relation sexuelle est présentée déjà comme quelque chose d'un peu difficile. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Et quelquefois, pour rigoler, je dis à ma femme, tu viens, on va prier. Alors elle me dit, bah, écoute, pas maintenant. Alors je lui dis, bah, viens, on va avoir une relation sexuelle. Alors parce que il est dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que vous ne vous occupiez de la prière. Hein? Voilà. Alors ça permet de... C'est pas pour tourner un passage de la parole de Dieu en dérision, hein, mais voilà, c'est... Toujours intéressant d'être dans cette relation agréable avec son conjoint et donc vivre sa sexualité dans le cadre protégé du mariage. Alors, on verra tout à l'heure si vous avez des choses à dire à l'égard de la sexualité, mais je voudrais ici vous donner quelques détails sur Tite, où il est question des hommes âgés, où il y a six caractères qui leur sont requis, des femmes âgées, trois caractères, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et donc, qu'est-ce que c'est un homme âgé, une femme âgée? Il me semble, presbytis, presbytes, la presbytie, hein, on est presbyte, donc vers 45 ans, hein, je suis opticien de formation, et la presbytie donc vient vers 45 ans, et je peux dire donc que, à mon sens, là, il est question, avec les hommes âgés et les femmes âgées, de personnes qui ont passé la presbytie. Et donc, c'est intéressant, mais là, on n'a pas le temps de le considérer. C'est intéressant de se demander pourquoi, par exemple, les femmes âgées ne doivent pas être ni médisantes, ni picolées, mais qu'elles doivent enseigner de bonnes choses, comme si elles n'enseignaient pas. Et ça serait intéressant de voir tout ça dans un cadre justement d'action et de relation. Pourquoi est-ce que la médisance touche dans le Nouveau Testament en général la femme? Je pense que c'est parce que la parole, c'est l'organe relationnel. Et une femme ne parle pas pour les mêmes raisons qu'un homme, à mon avis. Oui? Oui, voilà. Une femme ne parle pas pour les mêmes raisons qu'un homme. Et donc pourquoi médisante? Hein, alors le mot grec, j'ai mis le mot grec diabolos pour montrer que c'est quelque chose de séparant, hein, qui divise. Voilà. Je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut comprendre, hein, dans la relation, comme on est capable de faire mal, de diviser. Pourquoi est-ce qu'il est dit à la femme qu'il ne faut pas qu'elle soit asservie à beaucoup de vin? Alors que si vous regardez autour de vous, je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui picolent. Peut-être plus d'hommes, je ne sais pas. Hein, mais là, c'est dit à la femme. Et je pense que c'est absolument clair dans le cadre de mon travail que les blessures relationnelles font beaucoup plus mal que les blessures actionnelles. Est-ce que je me fais comprendre là? Les blessures relationnelles sont beaucoup plus douloureuses que les blessures actionnelles. Si j'ai un échec dans ce que je fais, c'est douloureux. Mais si j'ai un échec dans mes amitiés, hein, dans ma sensibilité, c'est plus douloureux. Et quand une femme a un échec relationnel, alors elle pourrait être tentée de le compenser en buvant à l'excès. Enseignant de bonnes choses. Là aussi, je crois qu'on peut entendre ces différences action-relation. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit aux hommes qu'il faut qu'ils enseignent de bonnes choses? Je pense qu'il y a des différences et cette sensibilité qui s'exprime doit être une sensibilité bien canalisée. Hein? Et donc, pour les femmes, il y a trois choses. Pour les hommes, il y en a six, hein, pour les hommes âgés. Et il faudrait prendre chaque exhortation ici, mais on ne va pas prendre ce temps-là. On pourrait peut-être un peu y penser à tout ça. En tout cas, les jeunes hommes doivent être sages ou sobres, ça dépend comment est-ce qu'on le traduit. Sophronéo, hein, semble être une contraction de sozo et de phronéo. Phronéo vient de phrène, qui veut dire le diaphragme en grec. Et donc, je dirais que sophronéo, c'est peut-être littéralement avoir une pensée établie, une pensée comme le diaphragme qui établit la respiration. Hein, c'est avoir une pensée qui est résultante, qui est sage. Et c'est la seule chose qui soit demandée aux jeunes hommes. Alors, voilà quelque chose dont on peut tenir compte. Alors, on va avancer avec ça. Et donc, on va voir maintenant, pour finir, quelle est dans cette pratique pastorale, ce qu'on peut faire? Alors, en général, la femme va souffrir de la solitude. Et de la solitude dans son couple. Hein? Elle est mariée, mais elle est seule. Et je me souviens de cette femme obèse, qui mangeait deux tablettes de chocolat à 9h30 du soir. Et pourquoi à 9h30 du soir? Parce qu'à ce moment-là, son mari était devant la télévision. Hein, la solitude. Et donc, il s'agit de si vous faites de la formation au mariage, il s'agit de bien faire apprendre à ceux qui se marient et aux hommes comment est-ce qu'ils sont capables d'être très tellement autonomes qu'ils en rendent seuls leur femme. La question de l'action et de la relation fait finalement qu'il y a une grande ambiguïté des gestes et des paroles. Parce que quand un homme va dire je t'aime à sa femme, ça n'aura pas du tout le même impact dans l'oreille de sa femme que quand la femme dira à l'homme je t'aime. Parce qu'au niveau de l'émotion, il me semble, hein, suivant comment est-ce que je peux comprendre les hommes et les femmes, qu'un homme, en fait, il est tellement dans l'action que je crois qu'il ne se connaît pas bien, en fait. Et un homme dira je t'aime, mais ça aura plutôt un sens conclusif, hein, de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de ce qu'il est déterminé à faire. Je t'aime. C'est pas tellement ce que je suis en train de ressentir. C'est ce qui m'habite, je t'aime. Et quand l'homme entendra sa femme lui dire je t'aime, il va l'entendre comme ça, parce que c'est ça son décodage. Alors que quand la femme est quelqu'un qui est pleine du sens relationnel, alors elle entend, elle, quand elle vit l'amour, elle sait en elle-même ce que c'est que cet amour. Et quand elle dit je t'aime, c'est le résultat de ce qu'elle est. Et donc, quand son mari lui dit je t'aime, elle va l'entendre de cette manière. Donc, attention à l'ambiguïté des paroles. Et quand J'entends, et ma femme d'ailleurs me l'a souvent dit, est-ce que tu m'aimes? Alors moi, les bras m'en tombent, je lui dis, mais je te l'ai déjà dit au moins deux ou trois fois. Et est-ce que tu veux que je te l'écrive sur un marbre en trois exemplaires? Et donc, en fait, ça c'est ça la difficulté en fait entre l'homme et la femme. Mais la femme ne me demande pas si, je le répète, non, la femme me demande si ça m'habite, mais si ce sont mes états d'âme en ce moment. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas que lui répondre à ce moment-là. Et je me sens bête. Pour les gestes, c'est pareil. Hein, par exemple, je remarque vers la fin de l'adolescence, 18-20 ans, quand on se prend la main, pour moi, le geste de la jeune fille n'est pas du tout, n'a pas du tout la même portée que le geste du jeune homme. Hein, quand on se touche entre hommes et femmes, pour l'homme, ça a une portée qui est très très grande parce qu'on est dans l'action. Et pour la femme, si on est en relation, alors c'est qu'on se touche ou qu'on ne se touche pas, c'est pas très très. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, homosexualité, transsexualité, ça va sonner bientôt. Hein? J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Hein? Pour moi, Romains 1, avec les trois fois Dieu les a livrés, Dieu les a laissés aller. Hein? Je crois que c'est versets 24, 26 et 27, quelque chose comme ça. Hein, montre qu'on devient homosexuel. Hein, dans Romains 1, du verset 23 au verset 27, il y a trois fois, ils ont changé Dieu en ce qui n'est pas Dieu, la vérité en mensonge et le comportement naturel en comportement contre nature. Et pour moi, l'homosexualité est une homosexualité de, comment dire, d'orientation psychologique qui résulte, dans Romains 1, d'une non-relation à Dieu, d'une non-relation à la vérité, et du coup d'un comportement qui en découle. Et dans la pratique de l'accompagnement pastoral, j'aurai des exemples à vous montrer de gens qui ont refait le chemin inverse et qui ont ressenti dans leur sexualité des pulsions différentes. Alors, je vais simplement vous dire que, à l'égard de la place respective dans l'Église, il faut aussi parler de ces choses aux gens qui souffrent, parce que, ils savent pas trop où se placer, et donc il faut qu'on ait fait un petit peu de chemin sur toutes ces choses-là. Et vous comprenez pourquoi le cours que je propose fait 120 heures et non 12 heures, c'est qu'il y aurait des choses à dire. Mais dire aussi que, à mon avis, la distinction de Galates 3:28, hein, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous vous êtes un en Christ Jésus, n'est pas une distinction générale, mais une distinction à l'égard du salut. Hein, la nouvelle naissance ne gomme pas les caractères spécifiques des sexes. Alors que certaines personnes tiennent ce discours, peut-être vous aussi d'ailleurs, hein, moi il me semble que. Dans l'Épître aux Galates, il est question d'égalité devant le salut et d'encouragement à recevoir le salut, mais pas de gommage des sexes. Et puis enfin, dans ce passage de Marc 12, qu'on trouve aussi dans les synoptiques, il ne faut pas penser que dans l'éternité, il n'y aura plus de mari et de femme. Hein, ce passage nous dit simplement que la résurrection, c'est le moment, le lieu, nous dit Jésus, où sont Abraham, Isaac et Jacob. La résurrection, ce n'est pas le moment eschatologique où il y aura une résurrection des morts. Hein, la résurrection, nous dit Jésus, c'est le lieu où sont Abraham, Isaac et Jacob. Parce que les Sadducéens niaient le monde invisible, les anges. La résurrection. Il niait, il pensait que, étant la dépouille étant en terre, il serait mort. Et donc, Jésus leur répond, mais dans la résurrection, il y a Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et il leur dit, dans la résurrection, on est comme les anges. Alors, qu'est-ce que sont les anges? Les anges, Hébreux 14 nous dit que ce sont des esprits qui administrent et qui servent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Les anges sont des esprits. Et dans la résurrection, effectivement, Abraham, Isaac et Jacob et les autres sont des esprits. Pourquoi? Parce que leur dépouille est en terre. Dans la résurrection, on est des esprits. Mais ça ne veut pas dire dans ce passage que quand les morts ressusciteront, alors il n'y aura pas de mari et de femme. Et dans la résurrection, Abraham, Isaac et Jacob ne s'occupent pas de se donner en mariage. Ça, on verra. Hein? Donc, le passage, en fait, dans ce passage-là, Jésus répond aux Sadducéens qui nient, on trouve ça, je crois, en acte 23, hein, il nie qu'il y a monde invisible, etc. Oui?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, qu'il y aura encore des couples au ciel.
Alors, d'abord, question, est-ce qu'il y aura encore des couples au ciel? D'abord, le ciel, c'est quand? Alors, dans ce que je peux comprendre, il y aura, hein, par exemple, 2 Pierre 3, 13 et Apocalypse 21, 1, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, en fait, on sera où, nous, dans l'éternité? Sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Qu'est-ce que nous dit Genèse 1 et 2 Pierre 3 à l'égard des cieux? C'est qu'à mon avis, les cieux, c'est l'atmosphère. Dans Genèse 1, Dieu appelle l'étendue qui est entre les eaux et les eaux. Il appelle cette étendue cieux. Et cette étendue, c'est l'atmosphère. Les eaux, c'est l'océan, les eaux du bas, et les eaux du haut, c'est les nuages. Et dans 2 Pierre 3, il est dit, les cieux seront embrasés. Les cieux seront embrasés. Je crois qu'il se produira quelque chose. Pourquoi pas une réaction, il y aura une volcanisation de la planète. Et les cieux seront embrasés. Et nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je crois que l'éternité va se faire, comme le dit d'ailleurs la doctrine réformée, il me semble, là, en continuité entre Éden et l'éternité. Il y a une continuité et il y a ce que nous vivons avec les cieux et la terre. Alors, ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, qu'est-ce que nous vivrons dans les cieux et la terre? Ben, nous vivrons avec des corps glorieux, mais dont les quatre caractères dans 1 Corinthiens 15 sont montrés. Ce qui est corruptible deviendra incorruptible, ce qui est en déshonneur deviendra glorieux, ce qui est faible deviendra fort, et ce qui est animal deviendra spirituel. Je crois que la seule difficulté par rapport à ça, c'est peut-être de savoir ce qui est animal et spirituel. En grec, animal, c'est psychikon, qui a donné psychique. Je crois que quelqu'un qui est aujourd'hui dans cette création est capable de fonctionner avec son seul psychique et d'être dans sa fonction spirituelle non vivant à Dieu. Alors que dans l'éternité, on sera spirituel, c'est-à-dire continuellement vivant à Dieu et dans la pleine réalisation et aboutissement de ce que nous sommes. Alors, dans l'éternité, est-ce qu'il y aura des mariés? Personnellement, j'ai toutes les raisons de penser que oui. Mais comme la Bible n'en parle pas, je vais vous dire, la Bible n'en parle pas. Hein, je pense que, par exemple, pourquoi est-ce que à l'annonce à Marie, en Luc 1 ou Luc 2, je crois que c'est Luc 1, pourquoi est-ce que l'ange Gabriel lui dit que son fils aura un royaume éternel? Un royaume éternel qui n'aura pas de fin. Donc son royaume n'aura pas de fin. C'est-à-dire que. Et qu'est-ce que c'est un royaume? C'est un pays dans lequel le gouvernement est une royauté. Mais un pays, c'est l'entité politique. Un peuple, c'est l'entité sociale. Est-ce que je me fais comprendre? Un peuple, c'est un ensemble de familles. Et un pays, c'est son côté politique. Hein, la nation. Et donc, qu'est-ce que c'est un ensemble de familles? Ben, c'est des gens, il y a un papa, une maman et des enfants. Hein, il y a une famille. Et donc le royaume n'aura pas de fin. Je crois qu'il là, il y a le fait que la famille sera quelque chose qui n'aura pas de fin. En Éphésiens 3, 15, il est dit que c'est du Père qu'est nommée toute famille. Éphésiens 3, 15. Et on comprend parce qu'en grec, du Père, pater, est nommée toute famille, patrice. Hein, c'est du Père qui est nommé toute famille. C'est la famille porte la marque du Père. Alors, voilà une autre réalité qui, à mon sens, me ferait militer pour une continuité entre l'éternité et maintenant, où cette dimension familiale perdurera. Après, comment? Ben, on verra. Hein. J'ai répondu? D'autres choses?
Vous parlez de résurrection et de résurrection des corps.
Oui.
Le premier sens de résurrection, c'est ce que vous entendez par
Alors,
avec Abraham et Jacob.
voilà. En grec, résurrection, c'est anastasis et egeiro, se réveiller. Hein, anastasis, ana à nouveau, et stasis, c'est la station. Donc, on se tient debout à nouveau. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, qui étudions la Bible, parole de Dieu, la résurrection, c'est ce moment où, 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ils se réveilleront et ils se tiendront debout. On est d'accord? Ça, c'est la résurrection à venir. D'accord? C'est pas la résurrection des corps? Des corps, des morts, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Parce que...
J'ai cru comprendre, vous parliez de deux résurrections.
Voilà. Alors que, en fait, quand Jésus répond aux Sadducéens, je ne pense pas qu'il parle de cette résurrection-là. Parce qu'il dit, dans la résurrection, on est comme les anges. Et il dit, n'avez-vous pas lu, hein, au titre, au chapitre du buisson, c'est-à-dire Exode 3? Hein, que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il montre bien donc que pour Jésus, la résurrection, c'est le moment où ces gens-là sont vivants. C'est le lieu où ces gens-là sont vivants, pas le moment. Hein, il y a un lieu dans lequel, finalement, les esprits attendent quelque chose. Ils sont vivants. Et Jésus appelle ce lieu-là la résurrection. Ça peut aller?
En fait, vous le reliez avec Apocalypse, avec la première et la deuxième résurrection. C'est la vision amillénariste.
Alors, oula, ça devient... Là...
Non,
Non,
mais
non,
c'est
non,
pas...
moi j'aime bien parler de ça, hein,
Mais en fait,
mais...
c'est pas contradictoire, je trouve ça cohérent, en fait. Hein,
Oui.
il n'y a pas de souci. Parce que cette résurrection, cet état dont vous parlez, en fait, c'est ce que l'article, quand Apocalypse 10, il parle de heureux ceux qui ont vécu la première résurrection. Dans un point de vue amillénariste, on parle de ceux qui sont aujourd'hui avec le Seigneur et qui règnent avec le Seigneur.
Voilà. Alors, moi, je ne suis pas millénariste, non.
Une lecture comme ça est cohérente avec une vision amillénariste.
Ok. Ça va nous amener un petit peu loin. Et je veux bien qu'on en parle après, hein, de ça. Mais mon propos, c'est de dire que dans Marc 12 et dans les passages similaires, que Jésus ne fait pas regarder aux Sadducéens ce qui va se passer quand il y aura une résurrection. Mettons cette résurrection d'un Thessaloniciens 4 qui est décrite, en fait. Il y aura un moment où les morts vont ressusciter. Je crois il me semble qu'aujourd'hui, les morts ne sont pas ressuscités. Mais peut-être que vous ne pensez pas comme moi, je ne sais pas. Hein? Les morts ne sont pas ressuscités aujourd'hui. Et il y aura un moment où les morts ressusciteront. Les morts en Christ. Oui, non, peut-être.
Il n'y avait qu'une seule.
Il n'y a qu'une seule résurrection, mais 1 Corinthiens 15, 23 nous montre qu'elle se fera en trois rangs. Hein? Il y a Christ, les prémices, 1 Corinthiens 15, 23, ensuite ceux qui sont du Christ à sa venue, et puis la fin. Voilà. Alors on en parlera après de ça, si vous voulez. Hein? D'accord? Ça va? Sinon, concernant masculin et féminin? Oui. Oui. Alors, je vais juste mettre tout ça en... Voilà, donc je vais prendre ça.